Bonsoir. Rencontre, le magazine qui rencontre pour vous et qui essaie d'en rendre compte avec nous ce soir, monsieur Bernard Gordon, membre de l'association pour la promotion des publications scientifiques, attaché scientifique à la Bibliothèque Royale Albert Ier et Bruxelles, traducteur. Nous allons parler, vous l'avez deviné, de science-fiction. Le pôle, au miroir fidèle des sociétés, est par essence un prolongement de l'être, présente dans l'esprit, désir, réalité, espoir et angoisse de ses créateurs. La science-fiction est sans aucun doute une philosophie cuisante de la vie. Toute civilisation a eu sa SF, crainte du surnaturel ou discussion avec le vécu. Des lointaines sociétés orientales, en passant par les Grecs ou les Arabes, la SF est partout présente comme sous une forme demeurée. Parfois taxée d'aliéné ou de folie par les uns, elle demeure en tout cas un symbole vivace de ce XXe siècle, le roman noble du temps, et l'on peut dire que la SF ou le roman fantastique, le roman de SF, reste une sorte de mémoire fidèle ou de miroir, une dimension littéraire tressée d'humanisme, particulièrement cette époque technique et technologique où l'homme se sent écrasé, dévoré par l'objet abstrait et concret. Avec nous ce soir, M. Bernard Gordon, traducteur de métier, mais également passionné de SF. Et nous allons peut-être dans un premier temps, M. Gordon, parler de la littérature science-fiction en général, avant de passer à des thèmes beaucoup plus précis, à savoir un centre de documentation ou comment essayer d'avoir tel ou tel ouvrage, tel ou tel filon littéraire pour pouvoir se dire un jour j'ai approché la littérature fantastique ou la littérature de science-fiction. Vous dirigez Idées et Autres, une revue de science-fiction éditée par Recto Verso, votre maison d'édition, et vous êtes connu tant en Belgique que par le monde. La littérature fantastique, la littérature de science-fiction, tout d'abord une première question, on la considère généralement, ou on l'a considérée comme étant un genre littéraire marginal. Et quand on connaît un tant soit peu la littérature dite de science-fiction, on pense automatiquement aux anglo-saxons, est-elle une sorte de plan Marshall de la littérature, ils ont envahi l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la littérature de science-fiction est par essence une littérature anglo-saxonne ?
Absolument pas. Je crois tout d'abord qu'il faut signaler que la science-fiction ou anticipation scientifique dans le chef de certains est une littérature, comme vous l'avez dit, qui est effectivement un miroir de la société. C'est une littérature qui, de ce fait, a un peu éclos dans tous les pays du monde. Je me suis évertué justement à prendre le contre-pied de la littérature anglo-saxonne de science-fiction qui est la plus connue, qui effectivement a envahi entre autres l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, et j'ai découvert de ce fait, étant traducteur, des littératures de science-fiction dans à peu près tous les pays du monde, tant dans les pays socialistes que dans les pays scandinaves ou autres pays européens, mais aussi dans des pays dits du tiers-monde, comme l'Amérique latine, du côté asiatique il y en a également, enfin il y en a partout. Et effectivement, c'est le miroir de chaque société.
Avant de revenir sur un plan beaucoup plus pratique et concret de votre travail en tant que traducteur et en tant qu'éditeur, restons un peu sur le plan de la science-fiction en général et dans le domaine philosophique. Quand nous entendons science-fiction, généralement on dissocie la science et la fiction. La science, par définition, par essence, c'est la rigueur. La fiction, c'est l'éclatement de l'imaginaire. N'y a-t-il pas une autre dimension dans la science-fiction, ou bien la science-fiction, c'est un mélange de science et de fiction?
Absolument pas. Je crois que de plus en plus souvent, on se rend compte que la science-fiction, peut-être par rapport au fantastique, je me permettrai une petite définition rapide, je dirais que la science-fiction est plutôt la littérature de fiction touchant à l'individu dans la société, et de ce fait est plus ou moins sociologique. Le fantastique, lui touchant à l'individu face à ses fantasmes, est plutôt psychologique. Alors la science-fiction sociologique est très importante dans la mesure où le thème, par exemple, de l'extraterrestre est en fait le thème antiracial, antiraciste par excellence. L'extraterrestre est l'autre. Et la plupart des auteurs de science-fiction, notamment un grand auteur comme Bradbury, qui a écrit les chroniques martiennes, prennent le thème du racisme, mais en dépeignant une société où ce sont les noirs qui dominent les blancs, pour bien montrer la dérision du racisme. Et c'est un thème qui a été souvent repris par d'autres auteurs, notamment par des auteurs latino-américains dans le tiers-monde. Donc la science-fiction est vraiment reflet, miroir de société, et s'évertue à justement combattre des préjugés stupides qui séparent les humains.
Si l'on prend la définition stricto sensu de cette science-fiction en tant que miroir, en tant que reflet de l'individu, de la société, ben alors toutes les sociétés passées et présentes ont eu une peur, une hantise de l'autre. Elles n'ont pas pour autant écrit de la science-fiction. J'en parlais tout à l'heure des Grecs, dans Socrate aussi, on parle de cet être qui est là-bas. Dans les sociétés musulmanes, il y a toujours cet être surnaturel, etc. Est-ce qu'on peut dire que la science-fiction est vécue inconsciemment par les peuples?
On pourrait le dire, je crois, davantage, comme le signalaient certains critiques, nous approchons de l'an 2000. Il y a le millénarisme qui joue, et de ce fait, il y a un développement volontaire de la part des intéressés de la littérature de fiction, ne fût-ce que pour échapper à la réalité. De ce fait, ça peut être une réaction consciente ou inconsciente. Et je pense que dans le temps, la science-fiction existait en tant que littérature du merveilleux. Maintenant, elle est davantage axée sur le scientifique, mais je crois surtout que c'est un instrument, notamment on le voit dans les pays à régime dictatorial, de quelque bord qu'il soit, c'est une façon de pouvoir remettre en question des abus de pouvoir. Ça permet aux gens, que ce soit dans les pays socialistes ou dans des dictatures comme dans certains pays d'Amérique latine, de critiquer le régime, pas nécessairement en négatif, en proposant des solutions de remplacement, mais sans encourir les foudres de la censure. C'est un moyen, et c'est parfois qualifié d'ailleurs de littérature catastrophiste ou autre.
En ce moment, on parle beaucoup d'Orwell, cet écrivain fantastique anglo-saxon, et notamment en 1984, parce qu'il a écrit un ouvrage, 1984. Est-ce que vous croyez qu'il y a une redécouverte depuis quelques années de la science-fiction, et pourquoi cet engouement pour 1984 d'Orwell?
Bon, c'est un peu un symbole, bien sûr. Nous arrivons dans une année qu'a décrite le roman d'Orwell. La plupart des gens veulent vérifier si les prédictions d'Orwell se sont concrétisées. Bon, je crois, comme disait Zinoviev récemment dans un congrès, que ce n'est pas tout à fait exact, que dans l'optique d'Orwell à l'époque, il s'agissait de faire une critique d'un certain régime dictatorial. Le personnage de Big Brother étant censé symboliser le personnage de Staline. Mais il est certain qu'il y a un regain d'intérêt pour cette littérature actuellement, notamment avec les difficultés, en particulier économiques, qu'on rencontre actuellement. Il y a un besoin des gens d'essayer de débroussailler l'avenir et de comprendre ou d'essayer de trouver des solutions. Et la science-fiction, entre autres, me semble intéressante parce que souvent elle est critique, comme je l'ai déjà dit, mais elle s'évertue à apporter des solutions. Elle détruit quelque chose, mais essaye d'apporter une construction en remplacement. Et ça, je trouve positif.
Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui prennent l'antenne en ce moment que nous sommes avec M. Bernard Gordon pour nous parler de science-fiction. Et après quelques conseils et une plaque musicale, ou si vous préférez plus poétiquement un cumulus nimbus musical, la suite de cet entretien.